Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu m'as dit une petite tête de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégés, ça tient pour sa peau.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Oh, je ne suis pas si réjouie que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette bête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour!
Salut!
Bonjour Mathilde, comment ça va?
Oh bah ça va un peu mieux, c'était pas la grande forme ce mois-ci là. Enfin le mois de juillet, fin juillet là, c'était...
Et oui, c'est l'épisode maudit du Récapito. L'épisode qui sort très tard, l'épisode...
C'est vrai, l'année dernière, c'était pas là où t'avais eu le coco?
Ah, moi, je suis malade que l'été, maintenant.
Ah, ok.
C'est l'épisode maudit, celui de la maladie et du report infini. On a dû reporter cet enregistrement au moins 4 fois. Et on n'a toujours pas réussi parce que nous ne sommes pas au complet. Damien n'est pas avec nous aujourd'hui.
Je pense que ça va être un épisode sur deux, maintenant.
Nous verrons, l'avenir nous le dira. Mais ça tombe bien que cet épisode sorte un peu plus tard, parce que l'épisode d'août sortira plus tard en septembre, parce qu'il sera enfin venu le temps des vacances. Mais c'est l'été. Alors écoutez, on n'a qu'à dire que c'est plus tranquille et que le récapito passe en mode été. Pas de réaction.
Je sais pas quoi dire.
Je suis seul. Comme chaque mois, on va vous parler des séries, des films, des documentaires et parfois des spectacles qu'on a vus sur les plateformes. Bref, on vous récapitule tout. Ce mois-ci, on va parler de Silo sur Apple TV+, de Secret Invasion sur Disney+, et de Une Zone à Défendre sur Disney+, aussi. On va commencer par parler un peu d'abord d'actu. On va commencer avec une actualité qui brûle les États-Unis.
Le feu ?
Non, c'est pas le feu. Ça, c'est une autre actualité importante, mais qui ne nous concerne pas trop. Je parle de la grève des acteurs et des actrices à Hollywood.
Oh.
Le mois dernier, on parlait de la grève des scénaristes qui bloquait les productions en cours à Hollywood. Et depuis le 14 juillet, les acteurs et les actrices ont rejoint la lutte à l'initiative du syndicat professionnel américain des acteurs qui a un acronyme un peu fou. C'est SAG-AFTRA.
Voilà. La SAG-AFTRA.
Je ne sais pas trop comment il faut le dire.
La SAG-AFTRA.
Le mouvement pourra durer jusque 2024. C'est vraiment les rumeurs qui circulent là-dessus, décalant d'autant les sorties des films et des séries. On rappelle que les deux syndicats revendiquent une revalorisation des droits et des conditions de travail, une augmentation des salaires fixes et résiduels, les fameux royalties, et notamment sur les contenus de streaming, des processus de casting moins lourds et un encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Anecdote, la présidente de SAG-AFTRA, c'est nul autre que Fran Drescher, que l'on connaît bien, pour Une Nounou d'Enfer.
Ah ouais ?
C'est très marrant. Tout le monde est étonné et rigole avec cette anecdote. Et je ne l'ai pas écrit, mais par rapport à l'intelligence artificielle, il paraîtrait que Disney a modélisé les visages de tous les acteurs et toutes ces actrices à leur insu pour pouvoir faire les films sans eux. Donc, vraiment, Disney...
On n'a pas le droit de faire ça.
Bah oui, déjà.
Parce qu'on utilise le visage des gens sans leurs autorisations.
Non, mais clairement, les gens demandent à ce qu'on se calme avec l'IA et Disney dit, bon, allez, scannons leur visage pour faire les films sans eux.
Disney
a absolument tout faux dans sa manière de gérer la grève. Bob Iger, le président de Disney, a dit... ils nous font chier, hein. Ils gagnent déjà beaucoup d'argent. Le gars gagne plusieurs dizaines de millions de dollars par an.
Oui, et... mais il gagne peut-être moins que les acteurs des fois. Alors,
non, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, on verra les répercussions de cette grève, mais toujours est-il que Toujours est-il que tout le monde, à part l'acteur de Arrow, je ne sais plus son nom, a dit que c'était très bien. Et lui, il a dit non, les grèves, c'est de la merde.
Voilà. Ok.
Allez, on passe maintenant à Epito.
Oui.
Mathilde, on a un petit.
J'ai pas un petit Epito, j'ai un gigantesque, extra grand Epito.
Oh là là.
Je suis Damien, aujourd'hui. Je suis Damien, et comme Damien le fait chaque mois, je vais vous dire ce qu'est mon Epito. Mon Epito, c'est la sortie de Airstopper le 3 août, en sachant qu'on est le 6 août, donc c'est déjà sorti. Et c'est trop bien, c'est et vrai. Je suis trop contente. Bien évidemment, je ne vous en parlerai pas dans ce récapito, c'est pas le bon mois. Mais voilà, je suis trop heureuse. Et ça vaut le coup de faire un Epito pour ça.
Ok. Bah oui, je peux partager
ce Epito. Je peux pas en dire plus parce qu'on en parlera les mois prochains.
C'est pour ça que normalement, c'est pas dans les Epito qu'on met ça.
Si.
On peut maintenant passer aux séries du mois de juillet.
Moi, je vais vous parler du Silo, une série que j'ai regardée début juillet. Ça fait super longtemps, du coup. C'était la saison 1, ça comptait 10 épisodes d'environ 49 minutes. C'était sorti le 4 mai 2023 sur Apple TV+. Et le résumé nous dit « Dans un futur dévasté et toxique, des milliers de survivants habitent un gigantesque silo souterrain de 144 étages. Au sein de cette communauté, les individus doivent se plier à toute une série de règles très strictes destinées à les protéger. Les citoyens qui le demandent peuvent sortir du silo, mais cette demande est irrévocable. Pourtant, peu à peu, l'idée que les dirigeants mentent sur ce qu'il se passe à l'extérieur fait son chemin. » Du coup, c'est une dystopie d'enfermement très mystérieuse. C'est l'adaptation d'un roman du même nom, Le Silo, donc si vous voulez le lire. Sur le coup, moi, j'avais regardé la bande-annonce, je me suis dit, oh là, encore une énième dystopie, ça va pas être cool. Mais
moi,
c'était
je m'étais pas dit ça.
C'était du Apple TV+, donc finalement, ça change. En vrai, elle m'a vraiment fait penser un peu à Snowpiercer.
Bah oui.
Même si dans celle-ci, les conditions de destruction de l'humanité sont au cœur de l'intrigue, en fait. Alors que dans Snowpiercer, on sait direct ce qui s'est passé dans le monde.
Oui.
Là, ça reste un mystère. Le fait que les citoyens du silo eux-mêmes ignorent pourquoi ils vivent et comment l'extinction a eu lieu est vraiment au centre de l'intrigue. Le suspense et le fait que j'ai immédiatement accroché à cette série. Vraiment, à chaque fois, j'avais plein de questions. Je me disais, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, je pense que le fait que j'ai accroché à la série, c'est parce qu'en fait, on ignore autant que la population, tu vois.
Oui.
Genre, on regarde la série et on ne sait pas ce qui se passe, et la population non plus, et on apprend en même temps que Juliette, qui est l'héroïne de la série. En gros, on est ignorant, et petit à petit, on a des brides de ce qui se passe. Dans le silo, la population est gérée par une police ultra restrictive, je vais y arriver, la judiciaire, mais aussi par l'ignorance de l'histoire, mais également du monde en général. En gros, ils savent rien du tout, ils savent pas ce qu'un arbre, ils savent pas ce qu'un oiseau.
Ah oui.
On les a vraiment, ils y connaissent rien du tout.
Donc on voit pas la civilisation, enfin la génération qui a vécu l'effondrement.
Non.
Okay.
On est direct dans le silo. On sait pas ce qui s'est passé
avant. Non, mais je veux dire, c'est pas des gens qui sont réfugiés, c'est une génération qui est née et a grandi dans le silo.
Ouais.
Okay.
Ils savent pas ils savent même pas ce que sont les étoiles ou comment était le monde d'avant. En gros.
Ah oui, donc en plus on leur apprend même pas ce que c'était quoi le monde.
Non, ils savent pas. Et ils ont une vision de l'extérieur. Il y a des caméras qui filment l'extérieur, donc ils voient ce que c'est et puis c'est tout. L'ambiance et l'intrigue fonctionnent vraiment bien et le final de cette saison donne vraiment envie de découvrir la suite. C'est un grand oui. Vraiment, j'ai trop kiffé. Et t'as des caméras à l'extérieur, et en fait, quand tu demandes à sortir du silo, et ben en fait, le silo te demande d'aller nettoyer la caméra pour que les gens puissent voir dehors mieux. Et du coup, il y a des gens qui le font et des gens qui le font pas. Enfin, tout le monde le fait, et on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Et c'est super intriguant. Et en plus, il y a vraiment des bonnes citations. Les fondateurs ont choisi de laisser planer certains mystères. Ouais, non, pas certains, tous. Et puis, il y a un peu ce qu'ils disent aux gens avant de les envoyer à l'extérieur. Ils leur disent « Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas qui a bâti le silo. Nous ne savons pas pourquoi tout ce qui se trouve à l'extérieur du silo est ainsi. Nous ne savons pas quand nous pourrons sortir sans danger. Nous savons seulement que ce jour n'est pas aujourd'hui. »
Pas mal.
Voilà, c'est comme ça. En fait, ça, c'est ce qu'ils disent aux gens pendant la cérémonie avant de les laisser sortir. Et en gros, quand tu demandes à sortir, eux, ils te disent ça. Ils disent bah, « On connaît rien du monde, mais aujourd'hui, on ne peut pas sortir. Si toi, tu décides de le faire, tu le fais tout seul et tu n'auras pas le droit de revenir. »
Ok. Ça me fait beaucoup penser à un film que j'adore qui s'appelle The Island de Michael Bay avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Et c'est un peu pareil. Ça parle de, toute une population qui vit dans un complexe...
Dans l'espace, non ?
Non. Qui est un peu strict et tout. T'as pas le droit d'avoir des contacts humains, etc., etc. Et il y a tous les soirs une loterie et il y a deux personnes... ou peut-être pas deux, mais il y a des personnes qui ont le droit d'aller sur l'île qui serait le dernier endroit vivable sur Terre. Et les personnes n'ont aucune idée, connaissent ce qu'est le monde, mais on leur a dit qu'il était détruit et invivable, etc., etc. Et c'est un excellent film de science-fiction. Ça me donne envie de le regarder.
Ils sont pas dans une... Ils sont pas dans... Moi, je me rappelle de leur combi blanche, là, ouais.
Oui.
Ça, je me rappelle.
C'est pas dans l'espace, c'est sûr certain.
Mais il est horrible, ce film.
Ouais, il est un peu horrible.
J'ai une vision du film horrible.
On ne va pas dire de quoi ça parle. On va enchaîner avec une autre série d'Apple TV+, qui s'appelle Mr. Corman. C'est la saison 1 et c'est la dernière saison aussi, qui compte 10 épisodes allant de 24 à 34 minutes. C'était sorti de août à octobre 2021. Et le résumé dit « Avec plus de chance, de meilleurs choix, une meilleure posture, Josh Corman aurait pu être une rockstar. Maintenant, il enseigne en cinquième année. Et bien qu'il aime ses élèves, il a toujours du mal à trouver le bonheur et un sens dans un monde qui manque parfois des deux. »
Cinquième année, c'était des CM2, je crois, CE2.
Ouais, c'était des primaires.
C'était des petits.
Oui, c'était des enfants. Est-ce que tu veux commencer à parler de
Mr. Corman ? Alors, moi, je me rappelle que quand on a voulu regarder une nouvelle série, on a été dans la catégorie humour sur Apple TV+. Donc, je pense vraiment que les gens qui ont créé les catégories sur l'application n'ont pas dû regarder les séries.
Ou n'ont pas d'humour.
Ou alors, ils ont un humour, mais très particulier, tu vois. Genre... c'est pas une série drôle, enfin pas drôle de, dans le sens on va se fendre la porte, tu vois. C'est une série sur la santé mentale qui à chaque épisode te donne envie de regarder le plafond et de réfléchir à ce que tu penses et qui tu es et comment se passe ta vie. En vrai, vraiment l'humour
pas trop à quoi.
Donc voilà, en vrai moi j'ai beaucoup aimé cette série, mais la ranger là les gens bah... c'est dangereux, quoi. Enfin, en vrai, je dis ça, mais il faudrait pas que tout le monde tombe dessus, tu vois. Tu peux mettre un petit truc, genre cette série parle de santé mentale. Si vous êtes fragile, ça peut vous toucher, je sais pas, faites quelque chose. Ouais. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup. On a vraiment l'impression que c'est la série de Joseph Gordon-Levitt.
Bah, c'est sa série.
Ouais, mais c'est vraiment genre le personnage de Josh. Joseph, Josh, tu vois.
Oui, effectivement.
Et on a vraiment l'impression que c'est sa série qu'il raconte, ce qu'il voulait lui. Et moi, j'aime bien l'idée parce que déjà, j'adore cet acteur. Et je trouve que ça fonctionne bien. Ça revient un peu sur le Covid, sur comment on a pu se sentir à cette période-là. Ça parle de la musique aussi. Ça parle de beaucoup de choses, mais ça le fait très bien. Et ça parle vraiment de la santé mentale avec toujours cette image de bourdonnement... de bruit incessant, de comète qui va te tomber dessus quand t'as l'impression que tu dérives ou que t'y arrives pas. Je trouvais que c'était des belles métaphores et j'ai bien aimé.
Je suis d'accord. Moi, j'aurais même été plus loin. J'aurais dit qu'on pouvait appeler cette série « Santé mentale, la série ». C'est le sujet plus que central. Josh Corman est un personnage attachant en pleine dépression qui souffle de violentes crises d'angoisse qui l'isole du monde, et comme tu l'as dit, c'est très bien illustré et je pense que tout le monde peut comprendre à travers les manières dont ces crises sont montrées ou ces états d'émotion sont montrés, tout le monde peut s'identifier. Alors oui, c'est des sujets lourds, mais c'est une super série, aussi parce que l'esthétique est très soignée, il y a des super effets de mise en scène. Il y a une sublime chanson qui clôture la série, qui est dispo sur Spotify. Et si le Covid est autant présent, c'est parce que la série a été interrompue, et s'est retrouvée, le tournage s'est retrouvé en plein dans la pandémie. Donc je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir l'avoir intégré au scénario. C'est très bien fait parce que ça se voit pas spécialement. On pourrait juste dire que les scénaristes ont voulu mettre le Covid dedans. Et surtout, c'était hyper pertinent parce que la manière dont Josh Corman est complètement paranoïaque du Covid, c'est ce que plein de gens et nous, on a ressenti. Et il y a beaucoup de recul, en fait. Enfin, il n'y a pas de moquerie, c'est plus... y a des gens qui l'ont mal vécu de ce point de vue-là, sanitairement parlant, on va dire. D'autres qui l'ont très mal vécu à être isolés, tout ça. Donc, c'est très bien fait. Et ça en fait en plus un objet de mémoire, je trouve, par rapport au Covid. Ouais, c'est très...
Et puis, il y a vraiment une patte cinéphile. Enfin, on dirait vraiment une série d'art et d'essai, quoi. Enfin,
c'est produit par A24.
Je trouve ça cool.
A24, c'est un studio historiquement de ciné qui fait des films de cinéma d'auteur américain. Mm. C'est le plus grand, on va dire, il me semble. Il me semble que c'est le plus grand studio de films d'auteur américain.
Mais en tout cas, je trouve qu'on trouve cette patte.
Yes. On va... passer à la suite avec une autre série qui a une patte, mais pas d'auteur.
Une patte.
C'est Secret Invasion. C'est une mini-série qui compte 6 épisodes de 50 à 35 minutes. 50, c'est le premier, 35, c'est le dernier.
Ah ouais. C'est sorti... Ils savaient plus quoi dire à la fin.
Non, clairement pas. C'est sorti du 21 au 26 juillet. C'est dispo évidemment sur Disney+. Ça parle de... Nick Fury, lorsqu'il apprend l'existence d'une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrull métamorphes, Nick Fury rejoint ses alliés, parmi lesquels Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos qui s'est établi pacifiquement sur Terre, pour se lancer à leur côté dans une course contre la montre. Un seul but les anime, contrecarrer par tous les moyens cet envahissement imminent et sauver l'humanité. Le premier truc qui devrait interpeller, c'est « Ah bon ?» Les Skrulls ont envahi l'humanité.
Depuis combien de temps ?
Depuis toujours.
On savait pas.
Mais depuis Captain Marvel, mais absolument rien ne nous l'a montré. Et malgré tout, j'étais assez chauffé par cette série, parce qu'on nous promettait une série d'espionnage paranoïaque. Et au final, c'est une grosse déception, parce qu'il n'y a pas tant d'espionnage et il y a encore moins de la paranoïa. Il n'y a même pas du tout de paranoïa. Je comprends pas trop ce qu'a voulu raconter Marvel Studios avec Secret Invasion, parce que le MCU ne nous a jamais préparé à une infiltration massive des Skrulls. Ça tombe clairement comme un plot de départ, mais dont les 50 séries et 75 films avant n'ont jamais parlé. Il y a encore moins un build-up de révélation. Jamais c'est... On fait jamais ça devant la série. On n'est jamais scotché ou traumatisé. Enfin, de ce point de vue-là, c'est complètement raté. Il n'y a aucune tentative de raconter des choses sous-jacentes, alors qu'il y a quand même un peuple extraterrestre qui n'a plus de planète et qui est obligé de vivre secrètement sur Terre. Je veux dire, il y a un tapis rouge politique, mais la série ne saisit même pas ça. Et pourtant, le premier épisode démarrait très bien. C'est pour moi le meilleur de la série, parce que c'est le seul qui tient ses promesses. Et en fait, ensuite, c'est que de déception en déception. Il y a quelques petits sursauts, mais globalement, je suis déçu d'épisode en épisode. Je trouve que Captain America 2 réussissait mieux tout ce que la série essaye de faire, alors qu'il n'y avait pas beaucoup plus de préparation dans Captain America 2 quand on nous dit « le shield est gangréné par Hydra ». On connaissait le shield que depuis un film et on nous dit en fait tout ça s'effondre et ça avait beaucoup mieux marché. Et comme je disais, c'est vraiment le dernier épisode qui est le plus mauvais à mes yeux, et il y a qui se clôture par un gros méchant numérique pas ouf et un gros combat numérique encore moins bien. Il y a littéralement le personnage le plus puissant de l'univers du MCU qui apparaît dans cette série. Je suis sûr qu'on ne la reverra jamais. Oui, en fait, il y a une Skrull qui récupère les pouvoirs de tout le monde.
Et du coup, c'est pas quelqu'un qu'on reverra quelque part.
Je suis persuadé qu'on la reverra jamais. Ou dans... Je sais pas, mais... J'en sais... Pff, c'est... Enfin, bref, c'est hyper chiant.
Bizarre.
Oui.
C'est bon ?
Oui.
Oh, je croyais que t'avais d'autres choses à dire.
Non, j'ai assez craché mon venin.
Ah oui, c'est cracher le venin. Drama ! Le drama est présent dans cet épisode. Celebrity, c'est un drama coréen qui est sorti sur Netflix le 30 juin. Donc c'est presque une nouveauté en vrai. On en parle en juillet, donc en vrai, c'est presque une nouveauté.
Oui, d'accord.
C'était 12 épisodes de 45 minutes. C'est dispo sur Netflix. J'ai regardé ça avec ma petite sœur, c'était trop bien. on parle de Seo Hari qui se bat pour accéder à la célébrité dans le monde glamour et scandaleux des influenceurs de Séoul. Hélas, des conséquences mortelles l'attendent dans le monde des réseaux sociaux. Alors vraiment, le résumé ne raconte rien du tout. Je l'ai lu, je me suis dit, tiens, je vais le mettre quand même.
Ça raconte assez pour me donner pas du tout envie de regarder.
Ouais, donc en fait, Seo Hari était riche quand elle était jeune, mais son père avait des grosses dettes et après sa mort, sa mère et elle se sont retrouvées avec beaucoup de dettes et du coup, sans rien. Leurs vies ont donc totalement changé. Et quelques années plus tard, on retrouve cette fille qui a une... Je pense qu'elle a une vingtaine d'années, un peu plus. Et elle travaille comme consultante beauté. Et elle rencontre une de ses anciennes amies du lycée qui est devenue une grande influenceuse, qui est ultra riche et tout ça. Et en gros, elle va se rendre compte qu'elle obtient vite, que Seo Hari obtient vite des abonnés parce que cette meuf-là l'a mis sur son compte, tu vois. Donc les autres, les gens vont s'abonner à elle... ils se disent « Ah, c'est la pote de machin, on va s'abonner. » Et au final, elle va elle aussi devenir une influenceuse. Mais c'est un monde de requins et de manigances et tout le monde va essayer de la faire tomber. C'est à peu près ce que raconte la série. Mmh. En vrai, la série, elle est sympa. Elle est construite en mode « Seo Hari est décédé » et elle fait un live pour raconter ce qui est arrivé. Donc en gros, tout le monde est en mode « Mais elle est censée être morte. »
Ah oui.
Et en gros, la série commence comme ça, genre on sait qu'elle est morte. Et elle lance un live et elle dit « Voilà, c'est moi, je suis là, je vais vous raconter ce qui s'est passé. » Et donc chaque épisode, bah, tu apprends un petit bout de l'histoire. Évidemment, elle commence au début et voilà, c'est des petits flashbacks tout le temps. Et on est en mode « Voilà ce qui lui est arrivé. » Du coup, ça tient vraiment en haleine, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et là-dessus, la série est bien faite. Après, les influenceurs, influenceuses... dans la série, sont horribles.
Elles dans sont... la vraie vie aussi.
Non, mais elles sont vraiment toutes méchantes. C'est des menteuses, elles sont malhonnêtes. Elles font des choses horribles. On a clairement envie de les remettre à leur place tout le temps dans la série. Et on a vraiment envie de se dire, mais on veut pas que ça existe en fait. Et je pense que c'est une série plutôt importante, parce qu'en Corée, c'est vraiment un vrai phénomène, peut-être encore plus que chez nous, les réseaux sociaux. Genre, c'est vraiment si une meuf porte une fringue, et ben 24 heures plus tard, il y a plus cette fringue nulle part, tu vois.
Okay.
Les Coréens et Coréennes sont vraiment très influençables pour le coup. L'influence fonctionne très bien. Et donc moi je me dis que c'est pas mal comme série. Je sais pas trop quoi dire de plus.
Et ben on peut s'arrêter là.
Ouais, mais je peux vous parler d'un autre drama que j'ai regardé si vous voulez. On enchaîne avec les dramas coréens.
Allons-y.
Alors celui-là, il date d'un peu plus longtemps. Quand il est sorti, tout le monde me disait de le regarder, mais moi, je ne suis pas très influençable, justement. J'étais en mode contre-courant, je me suis dit « Ouais, je le regarderai, tu verras. » Et j'ai fini par le faire. Donc c'est The Glory. Ça a été diffusé le 30 décembre 2022. C'est dispo également sur Netflix. Ça compte 16 épisodes d'environ 47 minutes. Et c'est également un drama coréen. Le speech nous dit « Une femme cherche à se venger d'un groupe d'anciens camarades d'école qui l'a brutalisée enfant. » Voilà, ça c'est le speech. Alors, on va pas se mentir, c'est très violent. On n'est pas dans le même mood qu'avant. Là, on n'est plus avec des petites influenceuses qui font des trucs pas cool, mais voilà, ça passe. Non, là, on est vraiment sur une jeune fille qui, quand elle était au collège ou au lycée, elle se faisait vraiment harceler. Il y a ses camarades qui prenaient des fers à boucler et qui lui mettaient sur les membres. Du coup, elle a des brûlures au fer partout sur elle. Et d'autres choses vraiment abominables. Et tout le monde laissait couler. Les profs savaient. Tout le monde vraiment laissait couler. Et donc là, on se retrouve avec une héroïne qui a dû survivre à ça. En plus, sa mère, elle s'occupait pas d'elle, donc vraiment, elle a quitté le lycée, elle s'est mise à bosser. Et en fait, son objectif dans la vie, c'était sa vengeance. Ça a toujours été ça. Son objectif dans la vie, c'était « je vais me venger ». Et donc, elle se retrouve autour de 30-35 ans à faire sa vengeance, en fait. Et ça finit extrêmement mal, bien évidemment. Mais ça a quelque chose de un peu révélateur, parce que pareil, les dramas, c'est un peu quelque chose de douillet, mais là, c'est pas du tout le cas.
Non,
c'est
pas
vraiment... Il y a des meurtres, il y a vraiment de la grosse maltraitance, il y a de la violence physique, ça parle de harcèlement sexuel aussi, parce que il y a une autre fille qui était avec elle au lycée et il y a un de leurs potes qui l'a violée. Enfin, vraiment, on va très très loin. Ils ont également poussé une fille qu'ils harcelaient avant elle au suicide. Et quand ils l'ont autopsiée, ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte. Enfin, vraiment, c'est...
C'est horrible.
Ça part vraiment loin. Mais en fait, le truc qui est incroyable, c'est que apparemment, le harcèlement en Corée, c'est vraiment aussi violent que ça, tu vois. C'est pas genre ils ont inventé une histoire horrible pour nous faire un peu pâlir en mode « Oh là là, c'est horrible ».
C'est pas genre qui a tué ça.
Non, apparemment, vraiment. Après, y a quand même tout le drama de en mode « La fille veut se venger » et tout ça, tu vois. Là, ok, on est sur un truc bien romancé. Mais c'est un peu libérateur pour toutes les personnes qui se font harceler, je crois. Et je crois que cette série, elle est peut-être pas mal aussi pour montrer aux gens, leur dire en vrai « Laissez pas faire », quoi. C'est ça le gros message de la série, c'est les profs laissaient faire, tout le monde laissait faire. Bah non, laissez pas faire, on le dira jamais assez souvent, mais quand il y a un problème, quand vous voyez quelqu'un qui se fait potentiellement embêter dans la rue, intervenez, même dites juste demandez l'heure ou une connerie comme ça, ça peut faire toute la différence, quoi. Et voilà, donc cette série était très horrible. Moi, il y a des moments où je ne regardais pas l'écran parce que ça m'a vraiment...
Ça n'a pas l'air d'être très feel good, pas du
tout. Non, pas du tout. Mais elle était cool quand même. Et en fait, à la fin de la série, il y a une ouverture. Parce qu'en fait, elle rencontre un mec qui est médecin et tout. Et il tombe un peu amoureux. Et lui, il a également une vengeance à faire. Donc la série reste ouverte sur le fait que potentiellement, il pourrait avoir une suite où on suivrait sa vengeance à lui.
Ok.
En fait, sa vengeance à lui, c'est parce que son père était médecin. Et un jour, il y a un tueur en série qui a été dans l'hôpital. Et il s'avère que le mec a soigné ce type et en fait, il a tué son père.
Ok. Ça n'arrive pas, ça, dans la vraie vie.
Ah ouais ? Je vois pas pourquoi tu dis ça.
On peut passer au film ?
Oui.
Je vais commencer par vous parler d'un film que j'ai vu sur MyCanal qui s'appelle Une belle course, qui est sorti en 2022, qui dure 91 minutes.
C'est pas long, si.
Non, c'est très bien.
C'est très bien.
C'est très bien, je vous dirai pourquoi après. C'est réalisé par Christian Carion avec Lynn Renault et Danny Boone. Ça parle de Madeleine, 92 ans, qui appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie. Cette dernière phrase arrive sans prévenir.
Ah, j'avoue que...
C'est un film très doux, tout l'inverse du drama d'il y a 30 secondes.
Oh, tout de suite.
L'alchimie entre les deux protagonistes est évidente et très tendre, parce que les deux sont amis dans la vie déjà. Lynn Renault, elle est aussi très très touchante. C'est un film très simple, plutôt joli et rigolo. Toutefois, il y a des moments un peu plus durs, dans le passé de Madeleine notamment, parce que ça essaye de dépeindre la vie d'une femme des années 60.
Je sais pas, je suis nul pour calculer.
Oui, mais j'essaie de me rappeler. Je crois que c'est années 60. Et donc, c'est une vie très dure qu'elle a. Et c'est justement ces moments-là qui sont un peu plus grossiers dans le film. C'est un peu plus avec des gros sabots et tout ça. C'est moins fin que les parties contemporaines. Même si ça reste très bien quand même. Le scénario est un peu prévisible parfois aussi. Mais franchement, ça n'empêche pas d'apprécier le film. C'est 100% un film TF1 du dimanche soir. C'est totalement ça. Et c'est donc un dimanche soir que je l'ai regardé.
Bien
et,
évidemment.
Et en fait, c'était le meilleur moment pour le regarder. Je voulais voir ce soir-là un film... Pas un film, pas une comédie en mode « j'ai pas envie de me prendre la tête », mais j'avais envie de voir un film qui ne nécessite pas de réfléchir trop. Et ce film-là était parfait. Voilà, c'était plutôt cool.
D'accord. Ça me... Oui, ça me... Voilà. C'est quoi le film suivant ? Ah oui, mais on a regardé « Monstre Academy ». Oui. Et c'est dispo, bon, c'est sorti en 2013, c'est un peu vieux, ça te fait 102 minutes, c'est dispo sur Disney+. Et moi, je ne l'avais pas vu, donc j'étais contente. C'est réalisé par Dan Scullon avec Éric Métayer, Xavier Fagnon et Catherine Deneuve, dans les voix françaises, bien évidemment. Même quand il n'était qu'un tout petit monstre, Bob Razos, qui rêvait déjà de devenir une terreur. Aujourd'hui, il est enfin premier... En première année à la prestigieuse université Monstre Academy, où sont formées les meilleures terreurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sully, un vrai crack qui a un don naturel pour terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l'un à l'autre qu'ils sont imbattables, tous les deux finissent par se faire renvoyer de l'université.
Oh loulou !
Oh loulou ! Alors, t'en as pensé quoi ?
Moi, j'aime beaucoup ce préquel de Monstre et Compagnie. Je crois que je le préfère même à Monstre et Compagnie.
Ouh, faut pas exagérer quand même.
Alors, je vais de... Une unpopular opinion, je ne suis pas un grand fan de Monstre et Compagnie. Ouais. Et donc, ce Monstre Academy est très agréable à suivre. Il vieillit très bien, même oui, s'il a déjà 10 ans. Les personnages sont attachants. L'univers fonctionne très bien aussi. Je trouve que la fac... Pixar est doué pour créer des univers, mais celui-là, il est hyper bien. La dynamique entre les deux héros fait immédiatement mouche, et c'est intéressant de raconter la naissance de leur amitié en cherchant à nous prendre à contre-pied, et même peut-être en créant des incohérences par rapport au premier film.
Ouais, je crois qu'il y a pas mal... Ouais, je me suis dit à des moments, je fais... je pensais pas que...
Dans le premier film, Bob dit à Sully, t'es jaloux de moi depuis la maternelle.
Ouais,
donc
ouais,
ils se rencontrent
ça.
À la fac. Ça, voilà, c'est, je sais pas si c'est la VF ou qui crée cette incohérence ou pas. Toujours est-il que j'apprécie aussi que le préquel ne passe pas son temps à faire des clins d'œil à Monstre et Compagnie, en nous montrant par exemple. Aujourd'hui, c'est sûr que s'il y avait ça, on nous montrait la porte debout. Elle serait pas ouverte. Mais on dirait, hey, vous avez vu, à la porte debout.
Mais
hey,
serait
il y a la porte debout.
Elle serait peut-être pas créée, tu vois.
Non, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y aurait ça. Et donc, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas ça.
Je comprends. Moi, j'ai bien aimé. Après, oui, j'ai peut-être un peu plus d'affect avec Monstre et Compagnie parce que je l'ai regardé vraiment énormément de fois quand il est sorti. J'étais vraiment trop fan. Donc, forcément, je ne vais pas dire que je l'ai préféré à Monstre et Compagnie. Et puis, il n'y a pas Boo. Et Boo est trop mimes. Mais... je l'ai trouvé vraiment cool. Après, j'étais peut-être un peu déçue que, bah, en fait, Sully c'était un peu un débile au début, et puis finalement, après, il s'adoucit et tout, tu vois. J'étais un petit peu en mode, oh bah non, il est tellement bien dans le premier film, pourquoi il fallait qu'il soit méchant, tu vois. Donc j'étais un peu triste. Et puis, le enemy to friends, c'est comme le enemy to love. C'est un petit peu, c'est des, un peu des stéréotypes de scénario un peu basiques qu'on a. J'aurais bien aimé peut-être autre chose, tu vois. Mais bon, c'était un film cool à regarder. J'ai bien aimé.
Ok. En parlant d'autres films cool à regarder, on a regardé aussi Un talent en or massif.
Oui.
Qui est sorti en 2022, réalisé par Tom Gormican, qui est dispo sur MyCanal.
Oui.
J'ai bugué.
Ouais, t'as tout mis à l'envers, mais t'inquiète, avec Nicolas Cage et Pedro Pascal en star.
Oui. Ça parle de Nicolas Cage, qui est maintenant un acteur endetté et qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure lorsque la CIA le contacte, lui demandant d'enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu'il est à la hauteur de sa propre légende.
Ouais. Alors moi, je vais commencer si ça ne t'embête pas.
Vas-y.
J'ai pas vraiment énormément d'affect avec Nicolas Cage. J'ai pas vu énormément de ses films. Par contre, j'adore Pedro Pascal. Je suis genre une fan inconditionnelle.
C'est pour ça qu'on a regardé ce film-là.
C'est d'ailleurs oui, parce que je pense que s'il y avait juste Nicolas Cage, j'aurais pas lancé. Moi, je t'aurais dit OK, regarde tout seul. Mais finalement, j'ai vraiment passé un bon moment et je pense que j'ai pas cerné toutes les blagues du film. Parce que bah, voilà, j'avais pas le truc de Nicolas Cage.
En fait, le film est ultra référencé à propos de la vie de Nicolas
Cage. Ouais, mais même par exemple, quand il y a le début où le mec il dit non, mais t'as pas besoin de casting, et l'autre il fait non, mais je vais te faire une scène là tout de suite, et il fait une scène, et ça doit être une scène culte d'un film qu'il a fait. Mais moi j'ai pas la rage.
Je les ai pas tous.
Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça, mais ça m'a pas ultra dérangé. J'ai un peu compris le personnage. On comprend vite le personnage. Et. En vrai, ce qui était incroyable, c'est tous les passages avec Pedro Pascal. Ce film est rempli de mèmes. Ce film est rempli de moments iconiques. J'ai envie de prendre des petits bouts et de faire un film avec tous mes passages préférés où ils se font des regards. Le moment où ils prennent du LSD, je crois, où ils sont complètement fracassés. Et le meilleur moment du film, j'en pouvais plus de rire. Non, vraiment, il était très, très cool. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai préféré. C'est vraiment le duo de comiques plutôt que l'histoire et tout autour. C'était vraiment pas, c'était moins intéressant, quoi.
Ouais. Bah, de toute manière, comme dans beaucoup de trucs où il passe, Pedro Pascal vole la vedette.
Mais oui, tellement.
On pourrait regarder, Kingsman 2. Il y a Pedro Pascal dedans. Oh, ça pourrait être
l'occasion. Je l'ai pas vu en plus.
Moi, je l'ai vu, mais j'en ai un souvenir très flou. Mais toujours, non. Mais revenons à un talent en or massif que j'avais découvert, non, que j'avais pas découvert l'année dernière, mais que j'avais envie de rattraper. Bah, j'ai passé un très bon moment aussi. Je me suis laissé porter par le scénario qui est rocambolesque. On m'avait prévenu quand même que c'était un film très particulier. En tout cas dans son scénario, parce que la mise en scène elle est hyper classique, mais elle est plutôt bien. Et c'est très rigolo de voir l'autodérision que Nicolas Cage a sur lui-même, parce que c'est un personnage particulier qui a une stature à Hollywood d'être un acteur un peu fou. Il y a sur YouTube des vidéos un peu dingo de lui qui fait des choses bizarres, sans doute à cause de la drogue. Et même, il a la réputation de faire 75 films par an parce qu'il passe son temps à tourner. Et donc, du coup, ils en rigolent aussi dans le film. Donc, en fait, tout ce qui a construit la légende de Nicolas Cage pour se moquer de lui, il en rigole dans ce film et c'est vraiment bien. Je sais pas trop quoi dire d'autre parce que t'as tout dit. On rigole, ça fait de la bagarre. Il n'y a pas trop de filles, ça, c'est un problème.
Mais c'est parce que c'est un film de mec. Hein. Oui, enfin, bah, là-dessus, c'est vraiment genre, il y a des meufs et puis il faut les sauver, quoi.
C'est ça. Oui, en plus, il faut les sauver. C'est vraiment un buddy movie un peu dommage.
Ouais.
Voilà. On va maintenant passer au documentaire. J'ai regardé une série documentaire qui s'appelle Tour de France au cœur du peloton.
Ouais, c'est... moi je l'ai pas regardé, je l'ai regardé de loin, tu vois. Je me posais des questions, genre, c'est vraiment intéressant
C'est sorti le 8 juin 2023, c'est 8 épisodes de 45 minutes et c'est dispo sur Netflix. Le résumé dans cette série documentaire a coupé le souffle. Nous suivons 7 équipes qui s'affrontent durant l'édition 2022 de la plus grande course cycliste du monde. Vraiment, il y a très peu de choses élogieuses dans ce résumé. J'avais sans doute pas assez de doses de Tour de France pendant le Tour de France.
Ouais, bah, donc, apparemment, oui.
Donc j'ai envie de regarder cette série.
Moi, je me suis vraiment posé des questions, genre, OK, on en est à ce point-là. Pas après, tu vois, pas quand ça se finit en disant, oh, je suis triste, ça se finit.
Non, c'était pendant. C'était pas mal du tout. Ça apporte un regard nouveau sur la course cycliste. Il y a énormément de narration, énormément de drama qui sont ajoutés pour feuilletonner la série documentaire. Ça biaise un peu le pur documentaire sportif, mais ça le rend très addictif. Je pense que même si la série essaye de le rendre accessible à tout le monde, même aux gens qui ne connaissent pas le cyclisme, ça n'intéressera pas les gens qui n'aiment pas le Tour de France.
Genre moi, désolé, vous m'avez pas eu.
Bah oui.
Par contre, j'étais bien, hein, on m'a expliqué les trucs, genre lui, il est, tu vois, il veut gagner, mais il peut pas, il doit soutenir l'autre, nanana. Mais...
Bah c'est ça, en fait, ça a créé des personnages avec l'antagoniste de l'équipe ou le petit relou qui veut pas écouter les consignes. En fait, voilà, c'est... C'est pour ça que je dis qu'il y a du drama, et même si il y a sans doute des tensions, parce que dans les équipes de sport, il y a des tensions, là, le montage et tout fait genre que des coureurs se parlaient pas.
Ou
se boudaient, etc., etc.
Tu sais, ils se croisent, mais ils ne se disent même pas « hi ».
Ouais, c'est ça. Bah, tout le monde ne peut pas dire « hi ». Par contre, la complaisance avec laquelle on présente la toxicité des managers d'équipe, elle m'a vraiment gêné. Il y a deux ou trois gars qui disent « Ah non, mais moi, je leur demande toujours plus. Je suis jamais satisfait. Eh, c'est ça, le haut niveau du sport. » Je fais « Bah non, ferme ta gueule. Tu pourrais au moins sourire qu'en fait, quand ils gagnent. » En fait, ça m'a saoulé. Et de plus en plus, ça m'énerve qu'on montre le sport à travers ce prisme et qu'on dise que c'est OK. En revanche, c'est hyper, hyper, hyper bien filmé. Par rapport aux images de France Télévisions le soir des courses, du coup, c'est là qu'on voit le plus de moments du Tour de France hors direct. Et bah, c'est d'une très grande qualité. Et ça, c'est pas mal. Voilà.
Ok.
On peut passer au sujet du mois.
On peut.
Je bouge pas.
Aucun fonctionnaire ne sera au courant de ton infiltration là-bas.
On ira jusqu'au bout. On lâchera pas.
Faut qu'on garde une veille sur cette zone. Le ministre suit le dossier en direct.
C'est quoi ton nom déjà ?
Greg. L'année dernière, on a grillé un flic. Ça rend complètement parano. J'ai envie de rester avec toi, je crois.
Allez, direct, quoi.
Allô, Greg ? Faut retourner sur la ZAD du Busset.
Quand ça ?
Plus vite possible.
Je le regardais quand même, hein, mais je voulais que tu sois au courant, quoi. Je l'ai voulu, je l'ai gardé, voilà.
Merde ! Merde !
Ça n'a aucun sens, s'acharner sur ceux qui se battent pour l'intérêt général.
C'est pas toi qui voulais défendre la démocratie ?
Il y a toujours des conséquences si ça merde.
T'as un gosse maintenant, c'est plus pareil.
15 jours, c'est notre objectif. Ce qui compte, c'est la volonté de communication du gouvernement. Je te jure qu'on va aller jusqu'au bout.
Ce qu'on a rêvé, tout ce qu'on a construit, ça sert à rien face à leur bulldozer.
Là, ils cherchent la taupe. Si je pars maintenant, je suis foutu.
Ah, il est là, hein ! Police !
Je sais pas quoi faire.
N'abandonne pas un enfant. Réfléchis à ce que tu veux vraiment.
Si je devais me barrer, tu viendrais avec moi ?
C'est trop tard.
Oh, cette bande-annonce, le drama, l'émotion. Ah.
Il s'agit de Une zone à défendre, le film de Romain Cogitor, sorti sur Disney+ le 7 juillet 2023 avec Lina Koudry et François Civil. Un petit peu de retour en arrière pour vous parler de la création du film. En 2016, Romain Cogitor annonce le projet d'un film sur une ZAD inspirée d'un fait réel en Angleterre.
On est dans secret de quoi ?
L'affaire Mark Kennedy. C'est un agent qui a infiltré plusieurs groupes militants écologistes pour 22 pays. Entre 2004 et 2009, il est embauché par la police allemande pour qui il aurait commis deux crimes, dont un incendie criminel. Et il n'a jamais été traduit en justice. En Irlande, il aurait encouragé des manifestants a attaqué la police lors de manifestations. Au Royaume-Uni, les révélations sur Mark Kennedy ont fait s'effondrer l'affaire, accusant 6 militants accusés d'un complot contre une centrale à charbon. Et lors de son infiltration en Allemagne, il aurait également manipulé et entretenu des relations sexuelles avec plusieurs femmes pendant ses infiltrations, à l'insu de ses supérieurs, évidemment.
Oh mon Dieu, c'était un bad guy.
Ça vous rappelle, normalement, si vous avez vu le film, ça vous rappelle des choses. Pour rendre ce film crédible, Romain Cogitor, co-scénariste du film aussi, a longuement enquêté sur les ZAD et y a même vécu. Et il a aussi demandé à François Civil de lire le livre Undercover, The True Stories of Britain's Secret Police, le livre sur l'affaire Mark Kennedy. À travers un communiqué de presse, il raconte ses intentions. Avec une zone à défendre, j'ai la volonté d'inscrire des enjeux environnementaux et politiques dans le cadre d'une histoire d'amour, de me placer dans un double genre cinématographique, le film d'infiltration et le mélodrame, pour raconter un moment de notre histoire contemporaine que zadistes et collapsologues appellent l'effondrement du vieux monde.
Ouh là là.
Tout ça donne un tournage officialisé par Disney en juillet 2022 et une sortie donc le 7 juillet 2023 pour le premier film Disney Plus original français. Le film dure 1h43 et le résumé dit « Greg, officier de la DGSI, est envoyé sous une fausse identité pour infiltrer une ZAD. Il y rencontre Myriam, une militante écologiste. 18 mois plus tard, Greg retourne sur place pour une mission officielle. Il retrouve Myriam et découvre qu'elle a un bébé. Déchiré entre son ambition professionnelle et un amour naissant, Greg doit faire un choix qui peut tout changer. Car le temps presse, bientôt tout disparaîtra. »
Oh là là !
Même le résumé m'a stressé.
Oh mon Dieu ! Je m'attendais pas vraiment à ce film. Déjà, il est signé Disney+, et moi, je l'aurais...
Mais oui.
Vraiment, c'était un film parfait pour Netflix.
Ou même Prime.
Ouais, ou même Prime.
Vraiment, c'est
très
pas...
étrange.
Pas Disney+, compatible
très
du
étrange.
Tout.
Ouais, je m'attendais pas à ce film. Alors, si, un petit peu, moitié mitigé. Enfin, j'étais partie dans l'idée d'un Roméo et Juliette dans la ZAD. Vraiment. Mais du coup, je m'attendais... C'est pas vraiment faux.
Bah,
mais
oui.
Je m'attendais à un truc un peu plus humour, centré... Des petites blagues,
oui.
De la petite musique indé, tu vois, un petit film...
Zaz.
Non.
Un caméo de Zaz.
Non, mais un petit film indé, tu vois, avec en romance, tu vois, je sais pas comment expliquer.
Oui.
Un peu en young adulte, tu vois, genre des adultes, mais ils sont encore jeunes, tu vois, genre jeunes adultes
oui.
qui se ouais. rencontrent et oh,
ouais.
l'amour fou, tu vois. Mais non, en fait, pas du tout. Étrangement, enfin, en plus, j'étais en train de regarder le film et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi ça me touche comme ça? J'étais vraiment, tu sais, je m'en voulais à moitié, genre, mais pourquoi ça me touche? C'est pas mon genre de film. Et ouais, j'ai vraiment été touchée. J'ai noté plusieurs citations que, en plus, j'ai aimé, ce qui n'arrive, enfin, je m'y attendais pas, hein, vraiment, j'étais genre, qu'est-ce qui m'arrive? Cette citation qui dit, si t'existais, t'aurais pris en charge une petite partie du monde à ton échelle, tu t'en serais senti responsable, mais t'existes pas. Cette citation, c'est pas juste la citation du film, c'est la citation pour tout le monde. Je trouve qu'elle marche pour tout.
C'est vrai, toutes les personnes qui refusent de politiser les choses.
Cette citation qui dit que si t'existes, à un moment donné, il faut te sentir responsable d'une petite partie du monde parce que tu vis dedans, je trouve qu'elle est vraie. Mmh. Elle m'a ultra touchée, j'avais envie de pleurer quand je l'ai entendue. Et puis ouais, enfin, j'ai aimé ce film. Je suis choquée, tu vois. Je suis en mode, oh mon Dieu, j'ai aimé ce film. Je trouve qu'il nous fait pas culpabiliser de ne pas en faire assez. Au contraire, il fait réfléchir à des trucs dont j'avais jamais réfléchi. Donc, je pense que vraiment, il fonctionne. Vraiment, est-ce que vous avez déjà essayé de vous dire que on est obligé d'avoir des papiers pour exister? Genre, on est, donc on est un bébé. Mais si on n'a pas de papier, on n'existe pas pour le reste du monde. C'est ouf. C'est idiot. Genre, on est là, tu te donnes à manger, tu peux toucher, mais cette personne est là, physiquement. Mais si elle n'a pas les papiers, elle n'existe pas.
Je vais me faire l'avocat du diable
c'est
de droite.
Ouf.
Je vais dire, oui, mais il faut un cadre dans la vie.
Bah non,
il faut cadrer les choses, sinon ce serait le bordel.
Moi, je trouve ça ouf.
Voilà.
Tu peux pas décider de faire un bébé dans les bois et de le garder. Il sera pas à toi, sinon il sera. Il faut le prendre.
On connaît tous quelqu'un qui dit ça. Il faut un cadre.
Je trouve ça ouf.
Sinon, ce serait le bordel.
Ah, ça m'a stressé, tu vois. En fait, j'étais devant le film et j'étais genre. Ah non, mais attends,
mais
c'est ouf.
Je suis d'accord.
Et ça, en fait, le film, il nous montre l'irrationalité de plusieurs situations. Vraiment, je l'ai senti comme ça. Genre, je me suis dit. Ok, mais c'est complètement con. Ça. Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est irrationnel de comment fonctionne le monde en général. Et moi, ça m'a émue. Me dire, mais en fait, oui, c'est complètement fou. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je ne comprends pas. Mais ça m'a aussi un peu énervée. J'étais émue, énervée et triste aussi, je crois.
Énervée d'être émue?
Non, pas énervée d'être émue, juste énervée de voir ce qui se passe, je crois. Et visuellement...
Ah oui, énervée de ça.
Enfin, ouais, genre... ok, y a un mec de la police de je sais pas quoi qui va sur la ZAD et créer des faux crimes pour arrêter les gens. Moi, ça me... Enfin, voilà. Voilà. Drama. Non, mais en vrai, c'est flippant. Donc voilà, j'étais... Voilà ma situation. J'étais émue, énervée et en même temps, j'étais triste. Je sais pas pourquoi. Et en même temps, François Civil... Bah ouais. Il marche incroyablement bien. J'y crois tout le temps. Son humour, le fait que quand il va à la ZAD et tout, j'y crois.
Et son duo avec Lina Koudry est hyper bien aussi.
Ça fonctionne.
Et Lina Koudry en zadiste, elle est hyper bien aussi.
Et j'aime bien aussi que ça soit pas juste une histoire d'amour. Je pense que c'est vraiment une histoire de famille, en fait. C'est pas juste il tombe amoureux d'une meuf. C'est en fait, il tombe amoureux de Théo, en fait, aussi. Enfin, y a vraiment ce truc c'est amusant parce que dès qu'il se rend compte que Théo, c'est son fils, c'est plus le même homme.
Mais c'est ça. En fait, il a des valeurs quand même. Et au départ, elles sont un peu patriarcales. Donc, il dit, c'est mon fils, donc il faut que je m'en occupe. Mm. Mais il tombe amoureux de cet enfant. Et c'est vrai que c'est peut-être plus crédible d'avoir écrit ça plutôt que
juste elle,
le coup de foudre. Ouais. Et du coup, il revient et il fait valser tout ce en quoi il croyait parce qu'il est amoureux d'une meuf.
Ouais.
Et peut-être qu'avoir mis ce bébé, c'est.
Je trouve ça plus cohérent.
Ouais.
Ça a plus de sens. Il le fait pour sa famille, en fait. Mm. Enfin, pour son avenir, en fait, son propre avenir. Parce qu'en fait, s'il veut un avenir avec eux, il est obligé de faire quelque chose. Et pour finir, je dirais que visuellement, il y a des plans magnifiques. J'ai vraiment été super choquée. J'ai vraiment aimé les plans où il y a des super plans avec François Civil qui joue Greg, du coup, et Théo qui est son fils. À chaque fois où il a Théo dans les bras, les plans sont vraiment trop beaux.
Oui.
C'est trop mignon. Et il y a d'autres plans. Oh, j'ai pleuré quand ils ont détruit la cabane. Au début du film, ils détruisent une cabane. Et j'avais envie de chialer. Alors que, tu vois, j'ai jamais vécu là-bas. Et moi, je voyais vraiment, genre, ils détruisent la maison de Jean. Comme ça. C'est, beaucoup trop d'émotions pour un film que je pensais pas du tout aimer. Voilà. De grosses découvertes. Et ça donne une image plutôt positive des gens qui sont dans les ZAD aussi. On a tendance à dire genre ils vivent dans une ZAD, nanana. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais moi je me suis dit que je me suis mis à leur place, je fais mais en fait je comprends, tu vois. Je comprends ce choix. Il est vraiment c'est un tournant incroyable dans ta vie de décider d'aller faire ça, mais je comprends en fait.
Ouais. Je suis comme toi, je m'attendais à une comédie je m'attendais à une comédie potache. Avec des parodies de zadistes, des zadistes en sarouel qui portent des satébas et qui font du diabolo.
Tu t'es dit c'est sur Disney+, alors ça va être un truc de droite.
Non, pas Disney+. Je me suis dit c'est un film français qui parle de la ZAD, donc ça va être une grosse parodie. Je te l'avais déjà dit, mais comme le film de Fabien Antoniente, le téléfilm, qui parle d'une fille de boucher qui rencontre un vegan.
Mais tu sais, c'est un livre aussi.
Oui,
un livre Yoga Adult qui parle de ça, de la fille du boucher qui tombe amoureuse d'un vegan.
Moi, je m'attendais à un truc équivalent à ce téléfilm de Fabien Antoniente, hyper caricatural, hyper nul, hyper pas drôle et hyper boomer. Et en fait, pas du tout. C'est un film sombre qui essaye d'être très réaliste. Et c'est porté par un duo dont l'alchimie fonctionne hyper bien, mais c'est peut-être parce que c'est la troisième fois qu'ils travaillent ensemble. Dans Les Trois Mousquetaires.
Mais oui, c'est elle aussi.
Oui. Dans un film d'animation, dans Buzz l'éclair aussi.
Ça fonctionne de ouf.
Yes. Comme tu disais, c'est clairement un film de gauche. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, mais je rebondis à ce que tu disais. Ça ne plaira pas à Darmanin. Parce que la police est présentée dans ses plus hautes instances comme des gens qui font de la merde tout le temps. Et quand c'est tout en haut, c'est de la manipulation politique qui sont à la solde des lobbies. Et tout en bas, comme des pions qui écoutent les ordres sans réfléchir.
Ouais, c'était ça.
Il y a ce gendarme qui... Quand on lui demande pourquoi il défend la destruction d'une forêt, parce que c'est ça que la ZAD essaye d'empêcher, il répond « bah c'est comme ça ». Et puis la semaine dernière, on était en train d'empêcher la déforestation en Guyane. Donc en fait, il
dit à quel point c'est vraiment... C'est ça en fait, le film dit à quel point ça n'a aucun sens.
Donc clairement, la police et l'État ne sont pas présentés d'une belle manière, et la gendarmerie aussi, ne sont pas présentés d'une belle manière dans ce film. Mais... Pour avoir eu des échos de ZAD, je connais une personne qui y a été. Ça se passe comme ça, les rapports avec la police. Le pari de faire cohabiter deux genres, le film policier et le mélodrame amoureux, est réussi. Mmh. Ça, c'est très bien. On se sent impliqué dans ces deux intrigues qui sont liées. On a autant envie de savoir ce qui va arriver à Greg parce que c'est le héros du film et à la ZAD. Greg, justement, son personnage et son évolution surtout est hyper intéressante. Même si je trouve qu'on le voit jamais vraiment changer d'avis, c'est plutôt en fait à travers chaque ellipse du film qu'on découvre qu'il a évolué. Mmh. On le voit jamais avoir. Après, ça reste hyper bien fait. Hein. Il partage des moments de bonheur à la ZAD et on se dit, bon, bah, c'est là qu'il a changé un peu d'avis. Comme tu as dit, la mise en scène est ponctuée de très beaux moments hyper esthétisés qui sont formidables. Visuellement aussi, une ZAD a été construite pour le film. Mm. Donc la cabane qui a été détruite, elle a vraiment été détruite.
Non, petit cœur.
C'est un film hyper politique, donc évidemment, moi j'adore. Et c'est une très bonne surprise et c'est une encore plus surprise de voir ce film sur Disney+.
Ouais.
On a tout dit ?
Tout dit.
On peut passer aux recommandations et aux nouveautés du mois d'août.
Et c'est parti pour les recommandations ou les nouveautés du mois d'août.
Voilà. Désolée. Elle a écrit cette blague et elle l'a assumée derrière le micro. C'est très beau.
Merci. Je suis une showwoman, tu sais.
Ok.
Showgirl, peut-être, ça serait mieux. Alors, ça continue pendant le mois d'août.
Donc, on va faire toutes les fins de mots en che.
Ouch.
Ok. Très bien.
Ça continue pendant août. On a pas mal de dramas. Drama, n'importe quoi. D'animés, plutôt. J'en mets vite fait, il y a Hell's Paradise, Orimiya, Jujutsu Kaisen sur Crunch avec un épisode par semaine avec des jours différents. Pour Jujutsu Kaisen, n'oubliez pas la pause de 3 semaines qui commence la semaine prochaine.
Ok.
Il y a des gens au travail à qui ils sont pas bien, tu vois. Petite dépression, pause 3 semaines de Jujutsu Kaisen. Force à vous. On en parle.
C'est quoi le nom de la communauté de fans des c'est les
Juju? Les Jujutsu. Non, ils ont pas de nom.
Bon, on va les appeler les Juju.
Les Juju.
Force à vous les Juju. on vous soutient. Enfin, je vous soutiens de l'extérieur.
Sinon, sur Netflix, il y a également My Happy Marriage, la saison 1, toujours en cours de diffusion avec un épisode par semaine chaque mercredi. Je suis à jour et c'est trop bien. C'est trop bien. Ça, d'ici un ou deux épisodes, on rattrape le manga. Les girls, préparez-vous. On va connaître la suite avant la sortie du tome 4.
Oh, ça va être incroyable. Ça peut finir comme Game of
Thrones. Et puis, on a toujours Drag Race France sur France TV. Encore 3 épisodes. C'est bientôt la fin.
C'est beaucoup,
on est trop
triste.
C'est
vite la fin.
C'est horrible. L'épisode de cette semaine m'a brisé le cœur. J'étais en larmes.
Tout le monde.
Comme chaque semaine. Vraiment, pas un épisode.
C'est vrai.
Une crise de larmes. C'est ça, ma vie, le vendredi. Et sinon, au mois d'août, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui sort ? Il fait ouch, le mois d'août. Il fait très mal, le mois d'août, on va pas se mentir.
C'est vrai.
Jeudi 3 août, donc c'est sorti il y a 3 jours maintenant, mais vous êtes tous au courant, bien évidemment, la saison 2 de Heartstopper est disponible sur Netflix avec 8 épisodes de 30 minutes. Et une partie de la série se déroulera dans notre belle ville de Paris.
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 Croissant.
Croissant.
Baguette.
Je suis chocolat.
Ah oui, cette meilleure réplique. La meilleure réplique.
Je suis chocolat.
Je suis chocolat.
Chocolat chaud.
Oh, chocolat.
sinon, il y a également eu la sortie de Zoom sans la liste de la mort. Alors, ça s'appelle en vrai... The 100 bucket list of the dead. En gros, les 100 choses que je dois faire avant de mourir.
Pourquoi on a rajouté Zoom, nous ?
Je sais pas, ça s'appelle comme ça en vrai, mais okay. c'est Bucket List of the Dead.
Oui, c'est ça le nom, le vrai nom.
Enfin, c'est sans Bucket List of the Dead. Du coup, c'est un film sur Netflix de 2h08. C'est une comédie, même producteur que Alice in Borderland. Ah ouais?
Okay. À chaque fois, tu découvres.
Ouais, c'est ouf. Adaptation en live action de l'animé japonais qui est actuellement en diffusion, j'ai oublié de le dire, sur Crunchyroll avec un épisode par semaine. Et bien évidemment, du manga. Avant tout, c'est une adaptation du manga The Bucket List of the Dead qui est incroyable. J'ai lu le premier tome, j'ai adoré, j'ai jamais lu la suite parce que je n'ai pas le temps. Malmené par son chef, il est devenu l'esclave de son entreprise. Mais quand une invasion de zombies se produit, il retrouve goût à la vie. Et c'est trop bien. Voilà, je vous conseille de regarder l'animé, je pense. Je ne sais pas quoi.
Non.
Quoi ?
Bah moi non, je regarderai pas.
Bah je vous conseille de regarder l'animé et je regarderai également le film parce que trois médias valent mieux que deux. Écoute, j'aurais découvert ça sous trois formes différentes, le bonheur. Le 4 août, il y a eu la sortie des Fleurs Sauvages, la saison 1 sur Prime Video, 7 épisodes de 60 minutes, adaptation du roman éponyme avec Sigourney Weavers. J'arrive pas à le dire.
Sigourney Weavers.
Sigourney Weavers.
Non, Sigourney Weaver.
Ouais, bah c'est bien. Après un tragique et mystérieux incendie au cours duquel elle perd ses parents, la jeune Alice Hart, alors âgée de 9 ans, part vivre avec sa grand-mère June dans une ferme de fleurs. Elle y apprend que sa famille cache bien des secrets. Je savais pas que c'était sorti.
Bah si.
Mais ça me donne grave envie.
Et oui.
Surtout que j'ai un mois gratuit de Prime Vidéo.
Oh.
Donc ooh. Let's go. Let's go, ça sera toujours mieux que l'été où je suis devenue jolie saison 2.
Et oui.
Le 8 août. Ah, on arrive sur des trucs qui sont pas encore sortis les gars. Le 8 août. The Seven Deadly Sins Cringe of Edinburgh. Alors, Edinburgh. Alors, on l'a mis mais moi je vais pas le voir. Je pense que personne ne va le regarder.
Dommage.
Les Seven Deadly Sins, c'est fini. La saison 1 était incroyable, le reste était pourrave.
Dommage.
À la poubelle. Zombieverse. Sur Netflix, 8 épisodes, télé-réalité sud-coréenne, un virus se propage et sème le chaos à Séoul, un objectif rester en vie. Mais c'est pas une télé-réalité.
Si. Ça a l'air trop bien.
Quoi ?
C'est une télé-réalité dans laquelle il y a des zombies.
Ah.
C'est fou. C'est
fou. Ok, ça me donne envie.
Bah oui.
Oui, bah oui, évidemment. Les Coréens font des choses incroyables.
Oui.
Et en même temps, les Coréens font des choses horribles.
Oui.
On est d'accord. Mercredi 9 août, High School Musical, la comédie musicale, la série, la saison 4. Oh mon Dieu, on a une saison de retard. On va devoir tout rattraper d'un coup. Mais j'ai hâte, j'adore. J'adore.
Mais il n'y a pas Olivia Rodrigo.
Hein ? Elle est où ?
Bah, elle n'est pas dans la saison 4. Elle a une carrière à faire. Hein.
Dernière saison ?
Oui.
Mais c'est qui alors le crush de l'héro maintenant ?
Je me suis fait spoiler dans la bande-annonce de la saison 4, mais c'est déjà dans la saison 3
qu'il
y a évolution du crush.
Oh, mais le petit rouquin, il est trop mignon.
Le petit rouquin, c'est le meilleur ami du héros.
Non, c'est pas le même alors. Ok, en fait, faut que je refasse tout ça.
Dans une série américaine, les petits rouquins sont forcément les meilleurs amis. Ça peut pas être les héros.
C'est trop triste. Bon, en tout cas, j'ai envie de regarder quand même. Jeudi 10 août. Alors, tu dis Painkiller, mini-série sur Netflix, 6 épisodes de 60 minutes. C'est un drame. Ce drame pose les causes et conséquences de la crise des opioïdes aux États-Unis en suivant des auteurs, ses victimes et une avocate qui veut faire éclater la vérité.
Ça a l'air bien.
Waouh.
Ça a l'air bien.
Ça, ouais.
Ça a l'air bien. Moi, ça me dit bien.
Ok, ça roule. Vendredi 11 août, L'Élu. Saison 1 sur Netflix, 6 épisodes. Série fantastique, série US et mexicaine, adaptation de la BD américaine Jesus. Jeudi, un garçon de 12 ans vivant à Basse-Californie du Sud se découvre des pouvoirs dignes de Jésus-Christ. Mais oui, une série très attendue, il me semble, parce que les gens qui... American Jesus, c'est un truc qui, nous, peut-être pas ultra connu en France, mais c'est une BD plutôt connue aux États-Unis. C'est sur Netflix. Bon, et puis on a ce film. My Dear Fucking Prince sera disponible sur Prime Video, l'adaptation du roman... qui a l'air trop bien. C'est une love, c'est un love ennemi entre le fils de la présidente des États-Unis et un prince anglais. Voilà, je vous ai un peu prédit ce que c'est. Un date sans fin, film sur Disney+, thriller drame. Lorsque Billy revit définit différentes versions du même rendez-vous, elle se rend compte qu'elle est dans une boucle temporelle créée par sa mystérieuse nouvelle petite amie dont elle doit sortir à tout prix. J'adore !
Ça a l'air trop bien.
J'adore ! Je veux voir ça. Ça a l'air trop bien.
Oui, ça a l'air hyper bien.
T'as vu une bande-annonce ?
Non.
Ok, bah ça me dit bien.
Non, ça a l'air hyper bien.
Mercredi 16 août, Miguel veut se battre. Ah ouais ?
Ouais, il veut faire la bagarre.
Ok. Comme c'est dispo sur Disney+, c'est un film, c'est une comédie, ça a l'air de parler de masculinité et de virilité. Lorsqu'un groupe d'amis de San Antonio est mêlé à une bagarre, l'un d'entre eux, Miguel, se dégonfle. Il doit à présent prouver sa masculinité et se battre avant que sa famille ne déménage à la fin de la semaine. Il est vraiment obligé de se battre ?
Ben, le film parle de ça.
Ok.
Le film a l'air plutôt bien fait.
J'espère qu'il ne va pas se battre au final.
Je pense qu'il va se battre au milieu du film. Enfin, il va se chauffer et il va se dire « mais c'est pas ça qui est important ».
Oui, j'espère aussi. Le 18 août, il y aura la sortie de Mask Girl. C'est l'adaptation en drama coréen d'un webtoon. Ça fera 7 épisodes d'environ 60 minutes. C'est dispo sur Netflix. Employée de bureau complexé le jour, elle se transforme en star du web masqué la nuit quand une série de mésaventures vient soudain bouleverser sa vie. Voilà, c'est
drama
du
coréen, ouais, sur
c'est
20,
du
quoi.
C'est du drama coréen, pas trop de suspense là tout de suite. À découvert, saison 1 sur Prime Video, 8 épisodes de 60 minutes, c'est une teen série d'enquête et de mystère, ça c'est ma cam. Après que la mort soudaine de son père les conduit a commencé une nouvelle vie. Dans le New Jersey, Michael Bolitar se retrouve rapidement mêlé à la disparition mystérieuse, beaucoup de mystère, d'une nouvelle élève de son école, Ashley Kent. Ok, j'aime bien, j'ai envie de savoir.
Oui.
Prime Video, en plus, ils font souvent des trucs teen pas mal, donc ça peut être cool. Mercredi 23 août, Star Wars Ahsoka, saison 1 sur Disney+, bien évidemment, deux épisodes d'abord, puis un épisode par semaine pendant 6 semaines.
Oui, c'est ça.
Du coup, quand on se rend en vacances, ça continuera.
Oui.
Oh, mon Dieu. En vrai, j'ai hâte parce que Ahsoka, c'est un des persos que j'ai le plus envie de découvrir en série depuis qu'ils l'ont un peu teasé dans les dernières séries que j'ai regardées de Star Wars où elle était là et je ne sais plus les noms des séries. Merci.
C'était dans Mandalorian.
Ah, c'était ça.
Et c'est l'héroïne de The Clone Wars. Et c'est trop bien. Et elle est très importante dans Rebels et c'est hyper bien aussi.
Donc on a hâte.
Un des meilleurs persos de l'univers Star Wars.
Je ne regarde plus trop les trucs Star Wars, mais ça me dit bien. Ça me dit bien.
Ouais.
Une femme, ça change.
Et c'est un trio de meufs qui lead la série.
Parfait. Vendredi 25 août, Anti-Gang la révèle. Film dit
non,
sur
c'est deux. Pas écrit.
La relève, oh là là, la révèle, révèle-toi. Non, la relève, c'est un film sur Disney+, c'est une comédie française de bagarre suite du film Anti-Gang de 2014 avec Alban Lenoir.
Je sais pas d'où ça sort. J'avais bien aimé Anti-Gang au cinéma en 2014, je sais pas d'où sort
Est-ce
cette
que tu
suite
crois que...
et pourquoi elle est sur Disney+.
Est-ce que tu crois que le nom Anti-Gang, ça a à voir avec Antigone?
Non, pas du tout, c'est une brigade de police qui fait de la bagarre contre les gangs.
Je pensais qu'ils avaient fait un jeu de mots sympa.
Non. Et à l'époque, c'était pas mal parce que c'était un vrai film d'action où ça faisait exploser des trucs en plein Paris et tout.
Ok.
Non, c'était pas Avengers qui détruisait Paris, mais ça faisait péter des voitures au milieu de Paris. Aujourd'hui, on en a eu plusieurs. Et Netflix, on a fait beaucoup avec Alban Lenoir.
À voir.
Je pense que je le regarderai.
Je sais pas, moi c'est pas mon
genre. Ton truc.
Pourtant moi j'adore Windbreaker. Tu vois les bastons mais en manga quoi, pas
en vrai.
Pas in real life. Moi j'aime les bastons quand le message c'est on peut parler avec ses poings. Comme ça l'amitié revient.
Enfin. Ah non, là il y a pas d'amitié, si on fait la bagarre.
Voilà, tu vois, c'est ça. Le 29 août, les voyages de Nikki. Oh mon Dieu !
Oui.
Série documentaire. 4 épisodes de 52 minutes. Nikki Doll parcourt le monde pour aller à la rencontre de personnes LGBTQIA+. Mais Nikki, je veux venir avec toi.
Elle est déjà partie. Enfin, c'est fini, hein, c'est tourné, c'est enregistré.
J'ai trop hâte. J'ai un petit peu lancé la saison 12 de Nikki pour voir.
Drag Race.
Je vous dirai.
T'as pas dit que c'est sur France.tv ?
Non, mais si, c'est sur France.tv. Incroyable, j'ai hâte. Ça nous fera un petit peu, on sera un peu moins déprimé quand Drag Race va se finir.
Je me suis dit
même
ça.
Même si franchement, si quelqu'un écoute ce podcast, j'y crois pas. Hein. Mais Elle est où la date de Drag Race France saison 2 à Rennes? Sérieux, elle est où, hein? On va pas être on, voilà quoi, je sais pas. On va ouais, c'est pas cool. En plus, je vous envoie un petit MP sur Insta. Zéro réponse, vraiment. Je suis trop triste. Je suis vraiment trop triste.
Ça règle ses comptes.
Pas cool. En plus, Rennes, enfin, sinon c'est Nantes et c'est méga loin. Et moi, je travaille le samedi. Soyez un petit peu sympa. C'est pas cool. Et puis, c'était tellement une expérience trop cool d'avoir vu la saison 1. J'avais trop kiffé, une des meilleures soirées de l'année. Oh là là. Voilà. J'ai...
Le coup de gueule de Mathilde.
Non, mais c'est bon, on a compris. Bon, allez, on passe à autre chose, sinon je vais pas m'arrêter. 31 août, alors, accrochez-vous. Le 31 août, il y aura One Piece saison 1, le live action sur Netflix, 8 épisodes de 60 minutes. Est-ce que cette série va devenir la série la plus longue de l'histoire de Netflix?
La série va durer 70 ans.
C'est pour vous faire attendre, les gars. Le tome 105 de One Piece sort le 29 septembre. Et bah, le 31 août, vous aurez un petit truc, tu vois. Un petit truc. Ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser.
Moi, je pense que ça va être une cata.
Ah ouais?
Bah,
moi, je sais pas.
Toutes les adaptations se sont foirées. Pourquoi celle-là, elle réussirait?
Je sais pas. Moi, je vais regarder. Je suis joueuse. Non, mais il va bien falloir que j'en parle avec les gens à la boutique, tu vois.
Certainement.
Il va bien falloir que je dise un truc. Déjà, je suis un peu la personne pas cool parce que j'ai lu que un tome de One Piece. Oh mon Dieu. Elle travaille dans un magasin de manga et elle a lu qu'un tome de One Piece. Horrible.
Tu mérites pas ton poste.
Bah, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ça, ouais.
T'es pas une vraie libraire de manga.
Bah non.
Bah non.
Non. J'ai même pas fini la saison 1 de Blue Lock non plus. Arrêtez de m'envoyer des méchants messages. Tout va bien. J'ai lu plein d'autres choses. La route du temps, la saison 2.
Je connais pas du tout.
C'est vrai.
J'ai jamais entendu parler.
Adaptation d'un livre aussi, La route du temps. On avait regardé la saison 1 et j'en avais parlé dans le podcast à un moment donné. Donc forcément, t'en as déjà entendu parler.
Oui, mais j'ai pas regardé.
Ah non, t'as sûrement pas regardé, non. Bah, la saison 2, on va voir ce que ça donne. Je me rappelle plus du tout de la saison 1. Je sais qu'il y a une roue, elle tourne. Non, c'est pas ça l'histoire.
C'est 5 villageois.
Oui.
Je crois qu'ils basculent quand... Une femme puissante et mystérieuse leur révèle qu'il y a un enfant d'une ancienne prophétie qui pourrait plonger le monde dans les ténèbres.
C'est ça. C'est un des cinq, mais on ne sait pas lequel. Et du coup, ils partent pour un long voyage et on doit découvrir qui est ce fameux enfant.
Ah,
tu vois.
Ok.
Voilà.
Très bien. C'est un mois d'août très chargé, mine de rien. On peut maintenant passer à la fin. C'est comme ça que se termine le 33e épisode du Récapito.
Oh là là, moi je suis tellement triste d'avoir fait un épisode où je peux pas parler de Heartstopper.
C'est vrai.
La dépression.
Tu l'as déjà vu combien de fois?
Deux.
Mais oui.
J'ai vu deux fois la saison.
Tu l'auras vu combien de fois le mois prochain?
J'ai vu la saison 1 aussi avant. Je l'aurais vu au moins trois fois, je pense.
On espère que l'épisode vous a plu, même si on n'a pas parlé de Heartstopper.
Je comprends que vous nous en voulez.
Comme d'habitude, vous pouvez aussi nous suivre sur le compte Insta de Plaid, sur nos comptes perso aussi, si ça vous dit, et sur le blog plaid.fr. On se retrouve.
Eh, j'ai remis des trucs sur le blog.
Oui,
bah, c'est ouf.
Oui.
J'ai fait deux articles. Bouh.
N'hésitez pas à aller les lire, ils sont très bien.
Ouais,
on
ça
se
m'a brisé le cœur.
Retrouve un peu plus tard, en septembre, pour parler de Heartstopper, enfin.
En septembre?
Bah oui.
Bah non.
Bah si.
Ah bon?
Bah non.
Ah bon?
Le mois d'août, c'est toujours en septembre.
Mais non, parce qu'il faudra le faire avant de partir en vacances.
Ah d'accord. Bon, on se retrouve quand même en septembre pour parler de Heartstopper saison 2 qu'on a déjà vu deux fois. Merci Mathilde.
Merci à moi.
Eh bah salut, alors plus personne ne remercie. Donc,
merci à toi.
Oh bah de rien, avec plaisir. On refait ça quand vous voulez.
Le mois prochain du coup.
Oui.
Avec Damien, on l'espère.
Mettez en commentaire. Damien, on veut que tu sois là.
I miss you.
Salut.
Bye.